Bonsoir, cher Xavier.
Et bonsoir, Arnaud.
Nous prolongeons notre discussion précédente, puisque ce soir, vous nous emmenez dans des hauts lieux de la décentralisation.
Exactement, deux symboles de cette décentralisation culturelle sur le plan muséal. Donc l'un, c'est le Louvre-Lens, vous en parliez, il a ouvert fin 2012. L'autre, le Centre Pompidou-Metz, on en parlait il y a deux semaines maintenant. Il a ouvert au début de l'année 2010, lui. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que pour la nuit des musées qui a eu lieu tout récemment, eux aussi ont fait feu de tout bois, comme les autres, avec concerts, animations pour la jeunesse et événements pour renforcer l'implantation locale. Le Centre Pompidou-Metz a eu droit il y a quelques jours à un éloge du Parisien. On y a vu, dit le journal, des ribambelles d'enfants, et cette exposition est faite pour eux, pour nous, pour tout le monde. Il parlait de l'exposition Jardin. Ces antennes délocalisées, donc des deux plus emblématiques musées nationaux et parisiens, étaient le pari culturel des cités industrielles, comme le résume bien Marie Gaudefrin dans un article du Monde en 2015. Il devait aider à faire revivre ces zones minières et industrielles sinistrées, dans une résurrection qu'on pourrait dire à la Bilbao. Alors même si leur surface est moindre, environ 7 à 8 000 mètres carrés, leur coût, respectivement 150 et 60 millions d'euros, est quand même un investissement important. Alors à première vue, aujourd'hui, la grève semble avoir pris. Le Centre Pompidou-Metz a organisé 25 expositions depuis son lancement. Le pari était un peu fou, mais le centre a bel et bien sa place en Lorraine, dit France Info. Les restaurants et hôtels ont enregistré des hausses conséquentes de fréquentation depuis l'ouverture du musée. Et de même, le Louvre-Lens a changé l'image de marque du territoire. Reconnaissez-la une représentante de la Commission européenne dans la Voix du Nord au début du mois. Mais ce qui inquiète, c'est la gestion des musées, puisque malgré un faible sursaut en 2014, note le site Culturebox, la fréquentation baisse de manière continue. 440 000 visiteurs pour Lens l'année dernière, 300 000 pour Metz, alors que chacun visait au départ 500 000 visiteurs annuels. Depuis un an, en tout cas, la presse hésite et ne s'enthousiasme plus. Les commentaires les moins inquiétants sont pour Le Monde: le Louvre-Lens résiste aux menaces, et le Louvre-Lens contre-attaque pour France 3. Alors, est-ce une situation de pause ou d'attente, alors que leur programmation est assez régulièrement, mais pas forcément très intensément, qualifiée d'ambitieuse? Il reste en dehors des 15 musées, en tout cas les plus fréquentés, au palmarès des Échos en janvier, et ces musées n'apparaissent pas non plus parmi les 12 musées dynamiques des Hauts-de-France du palmarès du Journal des Arts. Alors la situation est différente sans doute pour les deux établissements, moins inquiétante pour le Louvre-Lens près de Lille, dans un bassin muséal et culturel en plein développement, avec des projets nouveaux d'ailleurs, mais chacun a reçu sa volée de bois vert l'année dernière, et sur chacun pèse un soupçon aussi récurrent d'élitisme, notamment cet article du Monde qui a beaucoup fait parler, Jean-Michel Tobelem, qui parlait d'échec de la démocratisation culturelle pour le Louvre-Lens. Pour le Centre Pompidou-Metz, en tout cas, le budget incertain depuis 2014 a été stabilisé et l'isolement dont souffrait le musée atténué, disait sa directrice Emma Lavigne. Il ne faut donc pas non plus négliger le contexte local. Ce sont deux EPCC, établissements publics de coopération culturelle, financés majoritairement par les régions et collectivités locales, chacun avec un budget difficilement pérennisé de 15 millions d'euros environ. Mais une fois passé ce qu'on appelle dans la presse l'effet starter, la situation est incertaine, quoiqu'une fréquentation quand même supérieure aux plus importantes institutions régionales comme les Beaux-Arts de Bordeaux, qui font 225 000 visiteurs par an. Alors face aux questions en tout cas sur la fréquentation et la programmation, Emma Lavigne répondait sur France Bleu fin 2016: je pense qu'il ne faut pas avoir le regard fixé sur le baromètre de la fréquentation, c'est très important, mais c'est aussi très important de transmettre l'œuvre d'artistes moins connus. De fait, Warhol Underground au Centre Pompidou donc avait été une locomotive, l'exposition sur Michel Léris un peu moins, mais un certain succès quand même. Dernièrement, c'était les Jardins, vous en parliez, et certains projets ont quand même dû être abandonnés, à ce que j'ai compris. À Lens, vous venez de le dire, on tente cette formule très réussie, enquête pour l'exposition sur les frères Lenain, et Marie Lavandier, donc la directrice, revendiquait pour l'année dernière 60% de public régional, 60% même dans l'arrondissement. Elle mise sur la médiation, elle n'hésite pas à faire glisser le calendrier d'exposition temporaire comme celle sur la Mésopotamie à l'année dernière, qui a été avancée d'un mois. Alors j'ai pu lire, et je ne peux pas le vérifier, que les expositions qui fonctionnent très bien en 2016 étaient celles des artistes majeurs du XXe siècle. De ce point de vue, la politique de Lens et Metz vous semble-t-elle adéquate à cette demande? Et puis surtout, quel est le principal risque pour ces musées?
Ah, principal risque? D'abord, le constat quand même que ces musées, on en parle régulièrement, Pompidou-Metz beaucoup, c'est vrai que notamment sous la direction de Laurent Lebon, on a quand même vu une succession d'expositions de très grande qualité. Malavigne a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps que cela. On continue bien sûr à en parler. Louvre-Lens, c'est vrai que nous en avons parlé un petit peu moins. Je parle là au niveau statistique, mais parce que les expositions durent, c'est ça, beaucoup plus longtemps. Hein, Cohen-Rondeau, il y a beaucoup moins de... je cherche le mot français, mais...
De rotation,
merci Xavier Martinet. De rotation des expositions, elles durent plus longtemps, donc on en parle un petit peu moins, mais à entendre ce qu'on vient de dire sur l'exposition Le Mystère, le Nain, la qualité est au rendez-vous. Alors, quel risque? C'était ça la question?
Exactement.
Quel risque? Le risque de désengagement de l'État, de redonner ça aux collectivités locales, aux régions, Frédéric Bonnet?
Mais le risque de désengagement de l'État, c'est à mon avis le risque numéro un, évidemment, c'est le risque principal, c'est le risque d'une perte de financement, et qu'on sait très bien que si les régions se retrouvent seules à devoir gérer les équipements culturels, qui sont quand même des équipements lourds...
Oui, parce que 15 millions d'euros de budget, ça me paraît très peu. Hein.
Ouais. C'est relativement peu.
Pour des usines,
c'est même moins que le musée Confluence de Lyon, je crois.
Ouais, pour des équipements de cette taille.
Absolument, c'est très peu pour des équipements de cette taille. Donc déjà qu'on a des expositions qui durent 5-6 mois, là pour le coup on va se retrouver avec des expositions, avec une exposition par an, au final. Et je crois justement que le chiffre que vous citiez, Xavier, fait la preuve de l'implantation sur les territoires et d'une démocratisation de ces outils qui ne sont pas instruments destinés à une élite. Quand vous parlez, Xavier, de 60% d'un public régional au Louvre-Lens, c'est quand même bien la preuve qu'il y a une véritable implantation sur le territoire, que ça répond, si ce n'est un besoin, en tout cas que ça rencontre un public et que ça crée une envie et un désir d'aller voir des choses et des expositions.
Parce que 60% de 440 000, je n'ai pas ma calculette, mais ça fait quand même dans les 250 000, là, ce qui est beaucoup de gens pour ce bassin de population.
Oui.
Quand bien Rondeau. Sûr, non, mais ils nous saoulent avec leurs chiffres, quoi.
Oui.
Ils font des projets, ils disent, il faut, 500 000. Ils sont à 450 000. On va pas aller, on va... Je veux dire, c'est quand même un boulot énorme de faire fonctionner des établissements dont les superficies sont gigantesques, dont le travail scientifique est incontestable et incontesté. Enfin, je veux dire, le Louvre-Lens, puisqu'on en vient, ils ont un travail de médiation qui... Moi, je suis pas pour la médiation en général, parce que ramener du savoir pour voir, ça m'intéresse pas. Il faut d'abord voir. Et je crois qu'ils font un vrai travail là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, ils inversent un type de rapport qui est « Allez, on vous apprend ». Non, on amène les élèves, par exemple, voir une exposition, la Galerie du Temps, et puis à partir de ce moment-là, les parents vont chercher leurs enfants à aller au musée. Des parents qui ne vont pas au musée. Et donc, les enfants, ensuite, vont leur dire, ils vont leur faire faire le parcours dans la Galerie du Temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du musée qui incarne aussi la question de comment donner confiance à travers un objet qui est dit élitiste. Et donc, quand même, les gens qui sont censés en parler et juger disent c'est de l'élitisme, alors que le travail, c'est un travail à la fois les écoles, les parents, mais aussi dans les prisons. Il faut arrêter de nous saouler, je le redis. Ah, c'est pas joli, c'est vrai, vous avez raison, Arnaud. C'est vraiment insupportable que de voir que cet outil qui est formidable, qu'on appelle un musée, dans lequel les gens peuvent se perdre et se retrouver, dans lequel ils peuvent être accompagnés ou laissés seuls, où le travail est loin d'être simple. Ces gens s'engagent vraiment aujourd'hui. Alors quand c'est tout beau, c'est tout neuf, les gens s'emballent. Et puis après, il faut donner moins parce qu'il y a moins de gens. La question de la culture a toujours été une question d'économie, mais elle n'a jamais été qu'une question d'économie. Donc à un moment donné, il va falloir quand même arrêter avec ces mots d'élitisme. Et là, je rejoins Frédéric en relevant ce terme, parce que quand on fait les calculs, évidemment, on est en train de familiariser des gens qui n'étaient pas familiers de l'art. Et parce que nous le côtoyons, nous, tous les jours, nous savons qu'on n'a pas de rapport à l'art et à la culture sans familiarité. Donc tout le travail de médiation qui est fait au moins par rapport à l'école, les prisons, avec des gens qui sont dans le bénévolat et en partenariat avec le Louvre-Lens, je connais moins ce qui se fait à Metz, parce qu'ils sont plus Il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de rotation d'exposition, il y a aussi la question de la scène, parce qu'ils ne sont pas loin de Nancy, donc il y a des rapports à la danse. Puis bon, Emma Lavigne s'en occupe aussi beaucoup, même si c'était déjà avant elle. Donc ce n'est pas les mêmes structures. Mais je ne connais pas le travail de médiation, mais j'imagine qu'il y en a aussi. Mais je trouve que là, il faut rendre quand même hommage au travail qui est fait. Et il faut arrêter. Moi, je ne suis pas pour la démocratisation, vous savez à quel point je n'aime pas ce mot.
C'est moins facile. Je n'aime, au départ, hein.
Bien sûr, mais je n'aime ni ce mot de démocratisation, ni ce mot de médiation, et je vois ce qui se fait, et quand il se fait, et qu'on donne confiance à des jeunes, là, et qu'on inverse les rapports de trajet, de maison et de lieu, et qu'on oublie l'élitisme, et que tout le monde peut avoir accès, je dis, écoutez, donnons plutôt la faveur à ce qui se fait, plutôt que de devoir toujours regarder la moitié du verre vide.
Et Martinet.
Et de fait, Corinne, les chiffres vont vous donner raison. Il y a une étude en 2015 sur le Louvre-Lens qui a montré que 56% des personnes qui venaient dans ce musée étaient peu familiers du musée, contre 43% en moyenne. Donc on voit qu'il y a un véritable travail d'une part. Ensuite, la deuxième précision que je voulais apporter, ça concernait le centre Pompidou-Metz. Et ça me semble une différence peut-être importante, bien que j'ai pas le chiffre avec le Louvre-Lens, mais que c'est que 90% du budget de Metz est assuré par les collectivités locales. Donc il y a aussi une véritable pression locale et des mésententes locales, on le voit assez évidemment dans la presse, qui fait que la ligne budgétaire n'est pas forcément pérennisée. C'est ce qu'on a vu en 2014, je crois, pendant une période de 3 mois, ils n'ont pas pu organiser d'exposition.
Absolument.
De ce point de vue-là, ce qu'on peut attendre du ministère de la Culture, je ne sais pas, parce qu'effectivement, Françoise Nyssen ne s'est pas exprimée sur la question, c'était pas non plus dans le programme de En Marche. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle a été urbaniste, qu'elle est belge de naissance, Françoise Nyssen, donc ça devrait l'intéresser, et évidemment l'architecture, ça l'intéresse. On a deux beaux exemples avec ces musées-là. Peut-être un dernier point simplement à ajouter. Non.
Vous cherchez dans vos fiches, mais Frédéric Bonnet avait envie de s'exprimer.
Oui, quand on parlait de risque, il y a un autre risque, je crois. C'est ce qui avait été amorcé par notre ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, pour ne pas la nommer, qui amorçant un désengagement budgétaire progressif à propos du Pompidou-Metz, a eu cette idée brillante de dire « Ah, mais on fera moins d'expositions, on va montrer les collections du Centre Pompidou ». Déjà, le musée n'a pas été conçu pour ça et n'a pas été pensé de cette manière-là. Et deux, on sait très bien qu'un musée ne survit pas s'il n'a pas une rotation d'expositions qui font venir du public. Du public
en
plus,
et revenir.
Ça fait de la billetterie, ça fait de la trésorerie. Donc si on veut se tirer une balle dans le pied, la brillante idée d'Aurélie Filippetti, c'est ce qu'il faut mettre en place immédiatement.
Voilà, on termine là-dessus, Xavier.
Très vite. Le centre Pompidou Mobile n'a pas marché de ce point de vue-là. Ce que je voulais ajouter sur le centre Pompidou-Metz, c'est qu'il y a un véritable motif d'incertitude avec les propos de Serge Lavigne, le directeur du centre Pompidou, dans la presse dernièrement, puisqu'on voit qu'il veut se recentrer sur l'international, se délocaliser beaucoup plus, s'étendre à l'international, et que c'est pas forcément la priorité que le développement régional. Donc à suivre.
À suivre, et on suivra, forcément.